et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
Il va louper le début. Mais c'est pas une heure pour prendre sa douche.
Et c'est sur l'autre radio.
Est-ce qu'on peut encore croire à la fête sans écran, à la musique qui s'attrape dans les jambes avant de grimper au cœur, à ces instants un peu à part où l'on ne sait plus très bien si l'on danse ou si l'on est dansé? On vit dans un monde qui klaxonne, qui va vite, qui swipe, qui scrolle, mais parfois il suffit d'un tambour, d'un sourire, d'une cuillère de Colombo, qui sait. Et voilà que le réel se débride, que les trottoirs deviennent scènes, que les rues prennent l'accent créole. Cette semaine, en Mayenne, un festival ramène le soleil. Avec lui, il s'appelle Pan, comme une onomatopée joyeuse, une percussion dans le ventre, une invitation à l'instant. Tiens, Pan fête sa 5e édition, mais aussi les 25 ans des Allumés du Bidon, une bande de musiciens bien connus du paysage, de ceux qui jouent vraiment, qui jouent ensemble et font jouer les autres un peu aussi. On les reçoit aujourd'hui pour parler de fêtes de musique, de transmission. Océane et Jules sont avec nous en studio. Bonjour à vous deux et merci d'avoir répondu présent à mon invitation.
Bonjour.
Alors, et pendant qu'on parle de jouer ensemble, de faire circuler la joie, il y a peut-être une autre forme de transmission plus grave, mais tout aussi essentielle, celle de la mémoire, celle des visages qui ont vu, des mains qui se souviennent, celle qu'on tisse entre les générations. Et c'est toi, Yann, que l'on retrouve en seconde partie d'émission, mais dans un tout autre registre. Tu allais tendre ton micro du côté de la MFR de Saint-Berthevin. Bonjour à toi, est-ce que tu nous en dis quelques mots?
Bonjour Margot, je me suis intéressé au projet de transmission de la mémoire et des rencontres intergénérationnelle de la ville de Laval, et à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure.
Super, merci beaucoup, et puis on te retrouvera même avant ça pour la revue de presse du Haut-Anjou, comme chaque lundi. C'est un rendez-vous que l'auditeur de l'autre radio connaît bien. Pendant que j'y suis, je ne manque pas de faire un petit coucou à Maxime, aux manettes des pauses musicales. Est-ce que tu vas bien, Maxime?
Bonjour à tous, ça va super, et toi Margot?
Eh bien, très bien, puisque l'on terminera cette émission avec Alain Voisin, notre chroniqueur du lundi, qui viendra faire entendre la voix de la Ligue des Droits de l'Homme, une voix précieuse, surtout par les temps qui courent. Bienvenue à vous qui nous écoutez, fidèles du matin. Du midi, passager d'un jour, oreille curieuse ou rêveuse en vadrouille. Merci d'être là, de tendre l'oreille, de faire partie de cette drôle de bande invisible qu'est l'audience. Je suis Margot, vous écoutez l'Agité du local, l'émission quotidienne de l'autre radio. Installez-vous, prenez le temps, laissez-vous porter, l'émission commence. L'Agité du local sur l'autre radio. Cette semaine, Pan revient faire vibrer Laval et Louvernay pour sa 5e édition, au programme des Steelbands, des concerts, des repas créoles, des moments à vivre ensemble sous le signe de la fête et de la chaleur humaine. Et ce n'est pas tout, cette année marque aussi les 25 ans des Allumés du Bidon, ce groupe comme les autres qui souffle ses bougies en fanfare et en tambour d'acier. On en parle tout de suite avec toi Jules et puis avec toi Océane. Merci encore d'être avec nous. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire comment est née l'idée du festival Pan?
Ouais, et ben j'y vais. L'idée du Festival Pan, donc notre première édition, c'était en 2014, et l'idée première, c'était de rassembler pendant un week-end tous les steel bands de France, ces petits groupes de tambours d'acier, comme tu l'as si bien dit, pour juste s'écouter, pour faire la fête. Et au final, on s'est dit, mais pourquoi pas faire partager tout ça au public mayennais? Donc ça a commencé à inviter des steel bands, puis des groupes de calypso et puis plein d'autres choses.
Et alors, pourquoi avoir choisi ce nom Pan? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous?
Alors le mot Pan, en fait, il vient du mot Pan, qui est le nom en fait qu'on donne à ces tambours d'acier. Donc voilà, les Pan, qui veut dire casserole en anglais, parce que c'est l'origine de l'instrument. Et donc on a choisi ce mot-là parce que il est super, il est percussif et c'est exactement ce qui se passe quand on entend ces groupes.
D'ailleurs, on dit bien Festival Pan ou est-ce qu'on dit Festival Pan, ou les deux se disent?
On dit, nous, Festival Pan, mais techniquement, c'est vrai qu'on pourrait dire Festival Pan.
Alors, quels sont les temps forts de cette 5e édition?
Eh bien, les temps forts, on en a deux pour le coup. On a un off en semaine, où il y a une projection notamment ce soir à l'avant-scène du Cine Pan Odyssée qui retrace toute l'histoire du Steel Drum. Ensuite, il y aura des concerts à la Guinguette, notamment mercredi et jeudi. Et ensuite, deuxième gros temps fort qui est le week-end à Louvernay, à la salle des Pléiades sur le site extérieur, puisque là, ça va être vendredi, samedi, dimanche, trois jours de fête, trois jours de musique.
Et alors, d'où viennent les artistes invités cette année? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques groupes pour qu'on entre un petit peu plus en détail peut-être dans cette programmation?
Alors, les groupes viennent d'un peu partout, toute la France. Comme a dit Océane, c'est des steel bands qu'on invite, donc des amis. Donc, il y a des steel bands de Bordeaux, comme Socalypso, de Paris, comme Calypso Association, de Nantes aussi, de Tours, et puis, bien sûr, de Laval, puisque les Allumés sont présents. Voilà. Et il y a aussi des steel bands qui viennent pas que de France, mais aussi de l'étranger. Donc, on a invité pour cette édition Ebony Steel Band, qui est un steel band de Londres. Donc voilà, avec qui on entretient des liens forts aussi.
À quoi ressemble l'ambiance du site à Louvernay pendant le week-end? Puisqu'on a dit, il y a un premier temps à Laval, mais ensuite ça se déporte à Louvernay. Qu'est-ce qu'on va y retrouver?
Eh bah, bien, Louvernay, ça va être un peu un Trinidad et Tobago, tout en restant en Mayenne. On va essayer d'avoir, enfin, on va avoir cette ambiance bien tropicale. Et on aura aussi tout un stand de snacks créoles, donc pour voyager en musique, mais aussi dans l'assiette, finalement.
On parle de steel drum, comment est-ce que vous décririez-vous le steel drum à quelqu'un qui ne connaît pas du tout encore ?
C'est un son particulier, puisque c'est... Donc le steel drum, déjà, c'est le dernier instrument... en percussion qui a été inventé au monde c'est un son très particulier qui vraiment je pense sonne comme les Caraïbes comme on le voit et un son très tropical qui est chaud, très un peu cristallin, mais c'est très particulier à décrire. Et justement les orchestres de steel drum sont très impressionnants à écouter parce que pour cette patte qui est vraiment pas comparable ailleurs.
Il y a quelque chose de sonore, mais quelque chose de très visuel chez les Allumés du Bidon. Qu'est-ce que cette musique provoque peut-être chez ceux qui la découvrent pour la première fois? Est-ce que vous vous souvenez de vous la première fois où vous avez été confronté à cette musique? Elle est venue à vos oreilles?
Eh bah, on était assez jeunes pour le coup, mais rien qu'en parlant avec les gens, la première sensation qu'ils ont, c'est comme tu le disais, Jules, le son qui est très dansant. Finalement, cette ambiance qui vient de nulle part et qui s'empare des corps pour danser.
Quelle place est-ce que vous donnez au jeune public dans le festival cette année? C'est important d'en parler.
Ouais, c'est une nouveauté aussi cette année, puisqu'on propose un spectacle jeune public qui s'appelle Ogunogu, qui sera le vendredi. Donc on a une représentation scolaire, mais on a aussi une représentation grand public à 18h30. Où là, on retrace aussi une partie de l'histoire du steel drum via un spectacle musical.
Alors, quelque chose d'important, c'est que vous avez choisi le principe du prix libre. Qu'est-ce que ça permet, selon vous ?
Ça permet à tout le monde de pouvoir venir assister et découvrir cette culture. Voilà, et chacun peut venir comme il veut. Voilà.
C'était important pour nous d'avoir le prix libre aussi, parce que dans l'asso, on ne demande aucune cotisation à tous les joueurs. Donc, pour continuer ce côté, comme tu le dis, accessible à tous, c'était un point très important.
Les Allumés du Bidon ont 25 ans cette année. J'avais envie de vous demander qu'est-ce que ce groupe représente pour vous. Mais alors, quand on parle d'accessibilité à tous, il y a quand même quelque chose que j'ai envie de dire, c'est que quand on assiste à un concert des Allumés du Bidon, on voit effectivement que c'est très ouvert, il y a toutes les générations, et pourtant il y a une fusion très forte entre vous tous.
Oui, c'est quelque chose qui est très impressionnant, je pense, à voir, mais aussi à sentir quand on est dans ce groupe-là. C'est vraiment une petite famille, en fait. C'est une intégration très rapide, et par la musique, par cette culture, en fait, chacun se lie très rapidement, et il y a vraiment un partage qui se fait entre les générations, parce que on va dans l'association, en tout cas, de très très jeune à bien plus vieux. Et malgré tout, tout le monde se mélange, partage, et c'est vraiment... impressionnant même à voir quand on y est à l'intérieur.
De très jeune jusqu'à très sage, on peut peut-être le dire comme ça. Et puis quand on parle de très jeune, il y a notamment, je crois, les Allumettes qui permettent de commencer, de faire ses premiers pas avant de peut-être rejoindre les Allumés.
Ouais, c'est ça. Il y a même un autre groupe maintenant avant les Allumettes qui s'appelle les Étincelles, où là, c'est vraiment pour le coup les premiers débuts avec la musique, pas besoin de savoir lire des partitions ou quoi que ce soit. On peut intégrer les Étincelles. Et puis par la suite, on voit si on peut aller aux Allumettes ou aux Allumés. Donc, ouais.
ne pas hésiter à vous contacter, à se tourner vers vous si on a eu un coup de cœur, un coup de foudre en assistant à un de vos concerts. Qu'est-ce qu'on peut dire de votre répertoire ? Est-ce que vous composez, vous arrangez, vous improvisez ?
Le répertoire est très large, et ça dans tous les groupes. On peut passer du calypso au classique, au zouk. Vraiment, on essaie d'explorer beaucoup de styles. Et donc, les musiques sont arrangées par des membres du groupe. Donc, c'est souvent des reprises, mais qui sont arrangées pour des orchestres parce que c'est quand même une manière particulière de composer. C'est des instruments qui ont, comme tous les orchestres, bien sûr, des paramètres à prendre en compte. Et voilà, et bien sûr, on essaie toujours de rajouter cette petite touche tropicale au morceau qu'on retouche. Et c'est ça qui est super, quoi.
Oui, puisqu'on parle d'orchestre, on peut le dire. Hein, si quelqu'un qui nous écoute n'a jamais encore assisté à un de vos concerts, en fait, vous êtes très nombreux. C'est combien de personnes, les Allumées du Bidon, aujourd'hui ?
On est 32. C'est massif, sachant que certains joueurs jouent avec 6 bidons, par exemple. Donc, on peut imaginer le volume de l'orchestre, justement.
Et la technique, du coup, qu'il y a derrière, puisque vous jouez sans partition, c'est-à-dire qu'il y a aussi un grand travail de mémoire en plus de technique, beaucoup de regards, on sent vraiment une... Je vous parlais tout à l'heure de fusion, je pense que c'est le mot très juste quand on parle des allumés.
Ouais, c'est ça, carrément.
Alors, en quoi Pan peut-être est un festival différent des autres ? Je trouve qu'il y a beaucoup de paramètres, des choses un peu nouvelles qu'on voit aussi arriver avec...
Eh bien, moi, j'irais plutôt sur le style musical qui est amené en Mayenne via la Valatina, par exemple, qui commence un petit peu. Mais c'est vraiment s'ouvrir à d'autres cultures, pour le coup, du style band, certes, mais aussi de la musique caribéenne, de la musique calypso. Et voilà, c'est un mood différent, c'est des saveurs différentes, une culture différente. Donc j'irais plus sur ce levé-là en termes de différence pour le festival.
Alors il y a un temps, un lien important aussi que vous entretenez avec Trinidad et Tobago.
Ouais, c'est ça. Cette année, une partie des Allumées a eu la chance d'aller à Trinidad et Tobago jouer dans deux groupes même là-bas. Et Trinidad et Tobago, en fait, c'est le berceau du Pan. C'est là où a été fabriqué les premiers steel rum. Donc forcément, ce festival, c'est aussi un hommage à cette culture de Trinidad. Et on aura sur site avec nous Duven Stewart, qui est un grand arrangeur de Trinidad et Tobago, qui jouera avec les Allumés notamment et qu'on pourra retrouver tout le week-end très facilement sur site.
Alors on peut le rappeler quand même, puisque je ne crois pas avoir forcément précisé les dates. Le festival s'étend du 2, donc aujourd'hui jusqu'au 8 juin. Quels sont vos rêves pour la suite ? Et peut-être après cette édition anniversaire, est-ce qu'il y a encore des nouveaux challenges, des nouvelles envies ? J'imagine que tous ces 30 cerveaux bouillonnent en permanence.
Oui, on a plein d'idées toujours. Peut-être un autre pan, peut-être autre chose. On a toujours un projet qui se rajoute, et puis bien sûr des opportunités futures, peut-être des collaborations, je ne sais pas. Mais oui, sûrement qu'il y aura plein de belles choses encore à venir.
L'ensemble de la programmation est disponible sur Internet.
C'est ça, sur le site internet pancalypsofestival.com et sur nos réseaux sociaux également, Festival Pan, ou même sur le site des Allumés, les réseaux sociaux des Allumés.
Ne pas hésiter à être curieux, à se rendre à ces différents rendez-vous qu'on espère sous le soleil. On peut le dire comme ça. Merci Océane et merci Jules d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
Merci.
Alors pour la pause musicale, on va justement écouter un des artistes programmés ce samedi. On le découvrira d'ailleurs à vos côtés, aux côtés des Allumés du Bidon. Il s'agit de Trini Boy Juicy. Et donc on écoute le titre Bottle Overhead.
It could be water, it could be rum, it could be anything, everything going down.
It could be water, it could be rum, it could be anything, everything going down. Cause the bottle's over me, hey, hey, hey. And I'm bouncing through the ground.
The bottle's over me, hey, hey.
Now watch the girl and wine go down on the ground like.
I don't mean to be so rude, darling, but we don't really watch face. Now you have your purpose in drinking. We don't know how everything tastes. Well, you don't spy by the bar. We have it here by the case.
So if your feelings are problem, well, tonight you go know your place.
Waiting, tell them,
tout moun sa passe. Send for the punch and bring on the back of the. It's plenty bottles line up like on a range. We go do it just like the other day. We don't care what people say.
It could be water, it could be rum, it could be anything, everything going down.
It could be water, it could be rum, it could be anything, everything going down. Cause two bottles over me. Girl, them wine go down on the gong like down on the gong like down on the gong on the gong.
Phones out tipping, what you seen? I've been the bottle in my hand, it reinforced like a beam. And if you come inside, you know what you're getting in. And if you have no vibes, go home with your team.
Cause you like too much melee. When we come into mélange. Me and me posse does picole. We in and out like we tricote. We don't care about nobody.
It could be water, it could be rum, it could be anything, everything going down.
It could be water, it could be rum, it could be anything, everything going down. Cause two bottles over me.
Bonjour à tous, c'est l'heure de la revue de presse du Haut-Anjou. À la scierie des géants à Cran, les chênes en provenance des forêts domaniales et privées qui ont servi à la restauration de la flèche de Notre-Dame de Paris fin 2021 avaient été placés sous le feu des projecteurs. C'est une réputation qui va servir pour les différents ouvriers. En effet, un nouveau chantier lui a été commandé, celui de la flèche de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. On va refaire la flèche d'un coût de 22 millions d'euros, se réjouit Michael Renaud, le dirigeant de la scierie des géants. L'entreprise achète son bois de chêne de grande taille ou tordu en forêt pour répondre aux demandes des monuments historiques pour l'activité bois de marine. Avant tout cela, le nouveau chantier débutera en 2026 et se terminera en 2031. Cela représente pour eux 3 à 4 mois de travaux étalés sur plusieurs mois. À Saint-Denis d'Anjou, 4 médecins de la région vont s'installer dans une future maison de santé. C'est un projet attendu pour 2026 qui réunira médecins, spécialistes, paramédicaux, où ces derniers s'installeront dans l'ancienne école maternelle qui sera transformée pour cette occasion. La municipalité indique désormais que le projet est en bonne voie pour une mise en service début 2026. Ce sont donc 4 médecins généralistes sur la liste, 2 déjà installés sur la commune, au cabinet médical situé au 9 route de Sablé où exercent les docteurs Jean-Yves Bachelot et Valérie Coutan, qui seront donc accompagnés par une jeune médecin originaire d'Angers, ainsi qu'un confrère exerçant dans un village voisin, désireux de rejoindre la future structure qui pourra plus tard recueillir des professionnels du soin, psychomotriciennes, ostéopathes, orthodontistes, sages-femmes. Un projet visant à répondre aux besoins de santé de le territoire où la maire de Saint-Denis d'Anjou, Dominique de Valicourt, déclare, je cite, « et de faire de cette maison de santé un pôle attractif et collaboratif au service des habitants ». À Château-Gontier, c'est encore l'ouverture d'un autre restaurant prévu fin juillet où Dorian Guédon, 22 ans, originaire de la ville, décide d'ouvrir une pizzeria conviviale qui se nommera Le Fournil. Il se situera dans l'avenue Éric Tarbarly, à la place de l'ancienne boulangerie du Fournil de la Motte. À l'aide d'un salarié en salle, le futur jeune pizzaiolo souhaite faire une cuisine ouverte, visible de la salle, je cite « Je vais casser un bout de mur pour cuisiner devant les clients. J'ai envie d'être proche des gens, de partager. » Avec une vingtaine de couverts en salle, vente à emporter et service de livraison, le restaurant sera ouvert tous les jours, sauf le lundi avec un service midi et soir. En semaine, la fermeture est prévue à 21h30 et jusqu'à 22h le vendredi et le samedi. Un rêve qui devient réalité et qui commencera bientôt pour ce jeune passionné de cuisine. Merci d'avoir suivi cette revue de presse du Haut-Anjou. Pour en savoir plus, l'hebdomadaire est disponible en kiosque tous les vendredis et en version numérique sur hautanjou.fr. Passez une très bonne journée.
Bah tu écoutes quoi là ?
Chut ! C'est la JT du local. Ça me détend les neurones.
Et c'est sur l'autre radio.
L'histoire n'est pas seulement dans les livres et les manuels scolaires. Yann, c'est ton reportage du jour.
Eh oui Margot, je voulais parler du projet de transmission de la mémoire et des rencontres intergénérationnelles de la ville et l'agglomération de Laval à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Et pour cette occasion, je me suis rendu à la maison familiale rurale de Saint-Berthevin ce mardi 27 mai pour la projection du documentaire « Les Lavallois dans la Seconde Guerre mondiale » que Stéphane Piau a réalisé tout en étant chargé de la transmission de la mémoire à la ville de Laval. Il y a eu à la suite des échanges, des questionnements entre les élèves et la témoin Marie-Thérèse Crespel, 92 ans aujourd'hui, et adolescente au moment où Laval était occupé par les Allemands. C'est un travail collaboratif entre Éric Perrault, formateur et professeur d'histoire, ainsi que Stéphane Piau, le réalisateur, et c'est ce qu'on écoute maintenant.
On était partis 2 heures avant, heureusement, et quand ils ont bombardé, on n'avait plus rien du tout dans la maison que le Pierrot que vous démontrez là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vas-y, oui, je crois que tu... Bien fort, tu es loin, bien fort.
Sur le documentaire, on a vu que le viaduc, il avait été détruit.
Oui.
Du coup, les trains, comment ils passaient et à quoi ils servaient ?
En fait, je vais t'expliquer que ce n'est pas les Allemands qui ont bombardé le viaduc. Ce sont les Américains, quand ils sont venus libérer...
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, bien sûr. Bonjour, je suis Éric Perrault, je suis formateur à l'AMFR de Saint-Berthevin depuis 28 ans. Et puis j'enseigne, entre autres, l'histoire aux classes de 3e et aux classes de bac pro.
Depuis combien de temps vous collaborez avec Stéphane Piau ?
Une vingtaine d'années, une bonne vingtaine d'années. La première fois qu'on a fait la rencontre, c'était à son studio d'enregistrement à Laval. L'idée était de voir quel partenariat on pouvait mettre en place. Et puis tout de suite... Voilà, les affinités ont matché et on s'est trouvé un centre d'intérêt et de passion commune, l'histoire et la transmission de notre histoire. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, le partenariat s'est scellé et aujourd'hui, Stéphane, c'est devenu plus qu'un partenaire à l'établissement scolaire. Moi, j'ai toujours voulu œuvrer dans ces rencontres intergénérationnelles, dans l'intérêt de la maison familiale, mais aussi montrer que l'histoire dans un établissement scolaire est excessivement...
Et à partir de cette passion, comment vous liez votre métier d'enseignant d'histoire à cette contribution pour la culture locale ?
Déjà, je suis animé, je suis habité peut-être aussi par une conviction très, très forte en moi, qui a toujours été là, c'est que l'histoire, elle ne s'apprend pas, elle se raconte. Elle ne s'apprend pas dans les bouquins. Mes élèves, ils n'ont pas de livres, en tout cas pas les élèves de 3e. Pour qu'elle se raconte, il faut des gens qui l'aient vécu. D'où la mise en place, la mise en œuvre plusieurs fois chaque année scolaire, des rencontres intergénérationnelles. Je me considère un peu comme un simple passeur de mémoire, un simple passeur d'histoire. Et c'est important que nous, en tant qu'enseignants, on s'imprègne de ce qu'ont vécu nos anciens pour pouvoir ensuite bien ou mieux les transmettre à nos jeunes apprenants.
Pourquoi estimez-vous que c'est quand même très important de transmettre ces connaissances historiques aux élèves ? Est-ce qu'ils pourraient les oublier ?
Je crois que l'essentiel, c'est de ne jamais oublier, vous venez de le dire, de ne jamais oublier notre histoire. Parce que si on l'oublie trop vite, on prend le risque de la recommencer et de la revivre. Et malheureusement, ce que je viens de dire, ça vient de tomber à l'eau avec le conflit Russie-Ukraine. Notre témoin tout à l'heure l'a évoqué. Elle ne peut que repenser à nouveau à ce qu'elle a vécu, elle étant petite. Dans le documentaire, il y a un témoin qui disait aussi qu'à peu près tous les 20 ans, cycliquement, il y a un conflit qui ressurgit. Pourtant, on a toujours dit plus jamais ça, plus jamais de guerre. On a beau œuvrer pour maintenir la paix durablement. Il y a toujours cette interrogation qui est en moi. Pourquoi est-ce qu'à nouveau, on en revient à oublier notre passé ?
En conclusion, on ne peut qu'à nouveau féliciter Stéphane et Mickey pour leur intervention, leur présence.
Est-ce que vous pouvez me recontextualiser l'événement et pourquoi cette rencontre et pourquoi la MFR de Saint-Berthevin ?
Alors, pourquoi cette rencontre en général, puisque je travaille avec différents publics depuis très longtemps, depuis près de 40 ans. Donc, pour faire court, on va dans les écoles primaires, collèges et lycées de Laval, mais aussi de l'Aglo et même sur la Mayenne. Mais pas que cette génération-là. On travaille avec les EHPAD, les réfugiés, les handicapés, vraiment tout le public. Et pourquoi la MFR ? Eh bien, puisqu'on y vient depuis plus de 20 ans. On a tissé des liens très forts avec la MFR, notamment avec l'enseignant Éric Perrault, qui est maintenant un ami pour moi. On partage beaucoup de passions communes. Toujours un réel plaisir de venir à l'MFR. Vous l'avez constaté encore ce matin, c'est un bel échange. Les élèves sont réceptifs, mais aussi grâce à l'enseignant comme Eric, qui est un passionné d'histoire, qui leur fait vivre à travers ses émotions toute notre histoire. Quelque part, c'est ce que je disais encore ce matin aux élèves, l'histoire qu'on leur a racontée, c'est notre propre histoire, c'est leur propre histoire. Et donc, vous voyez, ils ne restent pas insensibles. Ce qui me passionne là-dedans, c'est que, on a encore pu le voir ce matin, c'est que la jeune génération ne reste pas insensible et qu'on ne fait pas ce travail pour rien, puisqu'on m'a souvent dit qu'on ne va pas passionner, intéresser la jeune génération. On a pu voir que le contraire s'est encore produit ce matin.
Qu'est-ce qui est le plus parlant dans vos archives sur le territoire de Laval pour la réalisation du documentaire ?
Le plus parlant pour moi, ce sont les images. Bien sûr, vous avez vu, c'est très riche, c'est aller au-delà de nos espérances. Mais le plus émouvant et parlant pour moi, c'est ces souvenirs que je garderai indélébiles chez moi concernant la rencontre avec les témoins. Mité Crespel, Jeanne Bongard, Monsieur Bouchard, c'est des souvenirs qui resteront gravés à jamais chez moi. C'est comme mes papy-mamie, c'est des liens très forts qui se sont tissés. Et donc, c'est comme des personnes très chères pour moi. Et c'est ça qui reste le plus important dans ce film. C'est les témoignages qui vont rester gravés à jamais dans les souvenirs de l'histoire de Laval.
Comment vous avez contacté chaque témoin de la Seconde Guerre mondiale ? Est-ce que c'est à partir des archives historiques que vous avez vues ?
Alors oui, ce qui m'a décidé, c'est que je voyais qu'on avait beaucoup d'archives sur la Seconde Guerre mondiale, notamment des films, des photos, des cartes postales. Mais on a lancé un appel, un communiqué de presse. Et donc, pour essayer de rechercher des témoins, je me disais, on va en retrouver quelques-uns, forcément. Dans le film, vous pouvez le voir, il y a 30 à 35 témoins. Donc, pour la plupart, je les ai rencontrés pour la réalisation du film il y a 10 ans. C'était déjà en 2015 pour le 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 45. Comme Mité Crespel, je les connais depuis 10 ans. Mais pour d'autres, je les connais depuis bien plus longtemps que ça.
Et pour finir et bien conclure ce reportage, je me rappelle d'une déclaration d'un élève de la MFR, très touché par les paroles de la témoin, Marie-Thérèse Crespel, je le cite, « À côté de ce que vous avez vécu, nous avons quand même une belle vie. »
Vous écoutez l'Agité du local. Dans quelques instants, on retrouve Alain Voisin, notre chroniqueur du jour. Mais avant, Maxime, on écoute un son.
Et oui, on va écouter « Love is all around » de Lucky Love.
I'm ready for you now. Come, 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 come. Nothing to be scared of.
Donc nous voilà arrivés au moment de la chronique de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Alain Voisin.
Oui, bonjour.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de sport.
Oui, nous allons parler de pratiques sportives. Parce qu'une loi votée par le Sénat, une proposition de loi discriminante, interdisant le port de, je cite, « tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse lors de toutes les compétitions sportives », cette loi est en voie d'être examinée à l'Assemblée nationale.
Alors de quoi s'agit-il et quel est l'enjeu ?
Donc voilà une loi qui est présentée comme visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport. Or, cette loi va exclure de la pratique sportive une partie de la population en raison de son appartenance religieuse, réelle ou supposée, du fait qu'elle porte un foulard. Il s'agit, par la loi, de viser les femmes portant le foulard, une discrimination liée à une tenue vestimentaire, tenue qui serait, selon les promoteurs de la loi, une expression de religiosité musulmane, ce qui reste à démontrer, car cette tenue vestimentaire est sans doute autant identitaire que religieuse. Quand bien même ces femmes portant un foulard seraient attachées à la religion musulmane, le sujet de l'interdiction du foulard dans les compétitions sportives ne relève pas du principe de laïcité, et ce, contrairement à ce qu'invoquent les promoteurs de cette loi.
Il ne s'agit pas de laïcité, mais de discrimination ?
Oui, la laïcité, principe fondateur de la République, est détournée pour discriminer une partie de la population. Reprenons la définition officielle, ce que dit la loi de 1905. La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. En quoi le port d'un foulard sur un terrain de sport ou lors d'une course à pied peut-il contribuer à perturber l'ordre public ? Porter un foulard n'est pas une atteinte à la laïcité, c'est l'exercice d'un droit, d'une liberté, d'avoir une opinion, de se vêtir selon son envie. Les filles qui portent un foulard dans le sport ne sont pas là pour revendiquer quoi que ce soit, elles sont là pour jouer, pour progresser, pour vivre dans un collectif, vivre pleinement leur sport comme tout le monde. Précisons que cette loi est censée aussi lutter contre ce qu'on appelle séparatisme et précisons aussi que sur le million d'adhérents des clubs sportifs, le nombre de clubs supposément séparatistes représenterait 0,07% des adhérents en France. Or, tout un montage et une loi est basé sur ces chiffres. Ce serait dérisoire, mais il s'agit bel et bien d'instaurer une discrimination dans la loi visant explicitement les citoyennes et citoyens de confession musulmane. C'est bien cela, c'est instaurer une discrimination par la loi, et c'est inacceptable, car ne relevant aucunement du principe de laïcité pourtant invoqué. Une légalisation de discrimination donc, à partir d'une vision qui n'est pas laïque, car la laïcité est une loi de tolérance et d'égalité des citoyennes et des citoyens. Ce qui inspire cette loi, c'est une conception d'une identité française largement réinventée, blanche, centrée sur l'hexagone, de culture catholique. Une France blanche et catholique, fantasmée par l'extrême droite, celle qui a fait la pression pour l'interdiction d'une soirée festive à Mayenne récemment. Voilà bien le véritable enjeu. L'extrême droite programme d'interdire tout port de foulard dans l'espace public Et il se trouve des forces politiques de droite et du centre qui vont dans le même sens. Par exemple, cette proposition récente d'interdire le port du foulard aux mineurs de moins de 15 ans dans l'espace public, proposition avancée par un candidat putatif, centriste, aux futures élections présidentielles. Il est grand temps de faire la clarté sur le sujet de la laïcité et d'arrêter de courir après les propositions d'extrême droite. La LDH entend y contribuer en prenant des initiatives pour cela cet automne, car nous serons dans un moment de célébration des 120 ans de la loi de 1905.
Vive le sport alors et non aux discriminations.
J'ai participé à des compétitions sportives de course à pied. Ce sont des moments où chacune et chacun est face à lui-même, dans un moment toujours marqué par la convivialité, le bonheur de participer ensemble, quelle que soit son origine, ses croyances, ses performances. Un moment de vivre ensemble toujours joyeux, bienveillant. Si l'âge m'a éloigné de ces compétitions, j'en garde un souvenir fort. Et d'ailleurs, je constate avec contentement le succès grandissant des compétitions populaires, telles les cross-corpo du dimanche matin, du semi-marathon de Laval, de la corrida de Château-Gontier et beaucoup d'autres encore. Des vrais moments de partage où tout à chacun a un plaisir de vivre le moment. Alors les discriminations dans le sport, non. Décidément, non. Pas de ça. Ni là, ni ailleurs.
Merci beaucoup Alain, à très bientôt.
Dis Mimi, tu crois qu'on passera un jour dans l'émission ?
Bah, faudrait déjà que tu arrives à faire une phrase, mais sans faire de blague.
Et c'est sur l'autre radio.
L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Océane et Jules d'avoir été avec nous. Merci à notre chroniqueur Alain. Merci à toi Maxime et merci à toi Yann. Avant de se quitter, un coup d'œil sur la programmation.
Et oui, la soirée commence à 19h avec Solénoïd. Comme à chaque semaine, l'émission nous propose un voyage sonore à base de musique planante, cinématographique et ethnique.
La soirée continue à 20h avec la discothèque du programmateur.
Et pour clore la soirée, à 21h, c'est la 102e de l'aléatoire.
Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous serons avec Jean-Claude Bélier qui nous parlera de Ménil Images, un événement pour les amoureux de photographie qui s'étend du 7 au 9 juin à Ménil. Vous l'avez compris, d'ici là, attrapez ce qui passe, une bonne nouvelle, un fou rire, un rayon de soleil et gardez-le pas trop loin, vous le méritez. S'il vous plaît, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.